Mardi le 29 mars, la compagnie Transpod a reçu un financement de plus de 685 millions de dollars pour la construction d'un hyperloop, aussi appelé train sous-vide. L'hyperloop en question relierait Edmonton et Calgary. Ce train à grande vitesse fera en sorte qu'il prendra quelques minutes pour passer de la métropole à la capitale albertaine au lieu d'en prendre 3 heures en voiture. Pour nous parler de ce projet et de ce financement, le directeur général et cofondateur de Transpod, Sébastien Gendron, est avec nous. Bonjour, M. Gendron.
Bonjour.
Les trains sous-vide, aussi appelés Hyperloop, sont un moyen de transport qui est peu connu. Très peu de ces trains sont implantés, mais l'idée d'en construire un est anticipée de plus en plus par les villes. Pouvez-vous nous décrire ce moyen de transport et ce projet d'Hyperloop à Edmonton?
Oui, c'est assez simple. Ce qu'on entend par Hyperloop ou transport par tube, c'est un concept qui existe depuis le début du siècle dernier. Donc, ça, c'est quelque chose qui a plus de 100 ans et qui a été remis au goût du jour par Elon Musk en 2013. Et en fait, ça consiste à avoir des véhicules de la taille d'un wagon de train ou d'un bus qui circulent dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air. Et l'idée d'enlever la majeure partie de l'air, en fait, c'est pour éviter aux véhicules d'avoir des frottements aérodynamiques et donc pour permettre aux véhicules d'atteindre des vitesses similaires à l'avion avec aujourd'hui notre technologie pour atteindre ces vitesses-là.
Mardi, Transpod a obtenu un financement de 688 millions de dollars provenant des entreprises Broughton Capital Group et China East Resources Import and Export Company. Comment avez-vous réagi de voir deux compagnies investir dans ce projet?
Bien, en fait, on voit en fait un changement, d'attitude de certaines institutions financières à vouloir innover ou en tout cas investir sur des projets innovants comme celui porté par Transpod. Et donc, Broughton Capital fournit l'ensemble du financement provenance d'Angleterre. C'est une firme financière anglaise. Et Cerieco, en fait, fournit une garantie financière sur une partie du montant. Donc, Cerieco, qui est une société d'import-export chinoise, et vient fournir un backstop, en fait, sur les fonds qui sont fournis par Broughton Capital. Et on a structuré le projet également de telle façon où le risque est géré avec plusieurs niveaux d'investissement, etc. Donc ça n'a pas été facile, mais on est très content d'avoir pu sécuriser ce financement avec eux.
Et j'imagine que cet argent sert seulement de couvrir une partie des coûts?
Exactement. Cet argent, en fait, a pour objectif de construire juste la première phase du projet qui consiste en fait à la connexion de l'aéroport de Edmonton. On va se servir de ce segment-là pour certifier la technologie et une fois que c'est certifié, ensuite on continue jusqu'à Calgary. Donc en fait, Broughton Capital et Cerieco sont pas juste intéressés par cette connexion aéroportuaire, mais vraiment par la totalité du corridor. Ils achètent un petit peu ils achètent leur siège aujourd'hui pour pouvoir financer la totalité du projet.
Est-ce que vous êtes à l'aise de dévoiler le prix total que cela pourrait coûter, le projet d'Hyperloop?
Oui, c'est d'ailleurs public. Ça a été publié l'année dernière lors de l'étude de faisabilité. Et en dollars canadiens, on parle d'un projet à 22 milliards.
Ensuite, M. Sébastien Gendron, vous voulez faire les premiers tests du trajet d'essai et entamer la construction de la ligne Calgary-Edmonton pour 2027. Croyez-vous que ce soit un objectif qui est réalisable?
Bien, à date, aujourd'hui, des retours qu'on a eus des entreprises de construction et de notre développement, c'est faisable. Maintenant, je ne veux pas faire de fausses promesses. On ne connaît pas tout, on va sûrement avoir des problèmes. On a essayé de mettre des buffers un petit peu dans le calendrier pour pouvoir absorber des aléas potentiels. Mais sur ce premier segment, notre objectif, c'est de commencer la construction à l'été 2023. On a eu des premiers retours nous disant il va falloir entre 18 et 24 mois pour construire ce premier segment. Donc là, on est sur 2025. Ensuite, 2 ans d'essai. 2025-2027, une certification potentielle, donc 2027, et après Après, on peut continuer sur Calgary. Donc, voilà, c'est un calendrier initial. Est-ce qu'il est ambitieux? On a voulu être pragmatique, mais à la fois, se donner des challenges à atteindre. Donc, on va tout faire pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, entre les différentes annonces qu'on avait annoncées ces dernières années, on tient notre calendrier, donc on va essayer de continuer le plus longtemps possible.
J'imagine que vous avez été en contact avec plusieurs personnes de Calgary ainsi que d'Edmonton. Quelles sont leurs positions par rapport à la venue d'un Hyperloop?
Écoutez, pour le moment, on a l'ensemble des institutions, que ce soit la ville, que ce soit même Edmonton Global. On travaille aussi avec The Building Trades of Alberta, le ministère des Transports, Alberta Transportation. Il y a aussi, on a commencé à contacter quelques Premières Nations. Et je dois dire que tout le monde est plutôt bienveillant sur ce projet-là. Il y a une approche, on va dire, à vouloir, comme ils disent en anglais, we are open for business. Mm-hmm. Et il y a une envie de voir ce projet, on va dire, se concrétiser. Donc, je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris. Les étoiles semblent alignées.
Monsieur Sébastien Gendron, un peu partout dans le monde, on voit de plus en plus de villes anticiper le projet. Croyez-vous que ceci pourrait réduire le trafic automobile dans les villes?
Alors, je suis assez prudent. Je pense que ça peut enlever un certain nombre de camions des routes. C'est notamment le souhait de compagnies comme DHL, UPS ou FedEx qui veulent essayer d'enlever des camions de l'autoroute numéro 2, là, Highway 2. Après, est-ce que ça va réduire le trafic? Je suis prudent. C'est un peu comme au début, on avait dit Uber va permettre de réduire le trafic et ça a eu un effet opposé. Nous, de notre côté, on va pas rajouter des voitures puisque c'est pas notre métier. Mais le système va, voilà, les populations vont grossir. Je pense que ça va contribuer. Je suis optimiste. Est-ce que ça va être significatif? L'avenir nous le dira. Je ne sais pas encore.
Vous avez un diplôme en ingénierie aérospatiale. Vous avez travaillé avec des compagnies aériennes comme Bombardier. Alors, quels sont les avantages et les désavantages de l'Hyperloop si l'on compare avec l'avion en termes environnementaux?
L'avantage, en fait, énorme, c'est qu'on a un système qui est 100% électrique, donc qui émet pas d'émissions de carbone. Après, il faut faire attention à la source, hein. Bien sûr, il ne faut pas que l'énergie électrique soit produite avec des usines de charbon, là. Mais si, sachant qu'on a sur l'infrastructure, là, entre Calgary et Edmonton, on va pouvoir construire 300 km de panneaux solaires et générer aussi, voilà, de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, on a un système, voilà, qui est beaucoup plus, on va dire, environmentally friendly que l'avion. Donc, c'est vraiment le gros plus, tout en proposant des vitesses similaires. C'est vraiment le gros plus de ce système.
J'ai entendu dire que c'était par contre plus énergivore. Est-ce que c'est vrai?
Non, sur la consommation énergétique, aujourd'hui, on est sur la même consommation qu'un train à grande vitesse. Mmh. Donc, on n'est pas plus énergivore que les systèmes existants.
Une chose qui m'inquiète, c'est oui, la vitesse extrême, le fait que ce soit sous vide, donc on ait retiré une majorité de l'air justement pour l'accélération de la capsule. Est-ce qu'il y a des risques à la santé qui ont été évalués par rapport à ça?
Alors, les évaluations vont être faites. Ensuite, juste pour remettre un petit peu, prendre un peu de recul sur ce système-là, on n'est pas en train de concevoir un canon électromagnétique. Donc, les accélérations et les décélérations de ce système-là sont similaires à celles du métro, quoi, ou du light rail à Edmonton. Mm-hmm. Et donc on est, voilà, il nous faut plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres pour atteindre la vitesse maximum. Et une fois qu'on est à une vitesse de croisière, c'est un peu la même sensation que quand on est dans un avion. Quand on est dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, on n'a pas la sensation de vitesse et ça se passe très bien. Mm-hmm. Donc ce sera la même expérience passager. Après, effectivement, on est dans un environnement à faible pression dans le tube, mais on a aussi cet avantage d'être au sol. Donc, s'il y a un accident, on peut repressuriser le tube en fait en 15 secondes. C'est très très rapide. C'est beaucoup plus rapide que dans un avion. Parce qu'un avion, si vous avez un accident de dépressurisation et que vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, le temps de redescendre, souvent ça se termine malheureusement avec un accident. Nous, de notre côté, voilà, on peut repressuriser beaucoup plus rapidement et permettre aux gens donc du coup de respirer dans le tube s'il faut évacuer et ensuite d'évacuer le tube.
Un de mes collègues avait peur que ce soit une cible pour le terrorisme. Est-ce que ça peut être le cas? Je pense, mettons, à Elon Musk, qui, lui, à Los Angeles et San Francisco, je crois qu'il veut faire ça en dessous du niveau de la Terre, tandis qu'à Edmonton, Calgary, ça va être au-dessus. Est-ce qu'il y aurait un danger là, que des gens malfaiteurs puissent faire du dégât par rapport à ça?
Alors, oui, ça peut exister, mais de la même façon qu'il peut y avoir un risque terroriste sur les lignes de CP ou de CN, et au même titre qu'il peut y avoir un risque sur à l'aéroport, quelqu'un peut mettre une bombe et donc du coup il va falloir comment dirais-je, voilà, donc on intègre ça. Donc il y a des lignes de train partout dans le monde et heureusement on n'a pas des gens qui veulent mettre des bombes de partout. Le risque peut-être plus important que le risque terroriste, c'est le risque cyber, où on travaille aujourd'hui à protéger les infrastructures, en tout cas les réseaux informatiques, avec voilà des protections et des firewalls et tous les systèmes nécessaires de redondance pour éviter ce genre de comment dirais-je, on veut pas que la ligne demain soit hackée par des pirates informatiques. Donc c'est ce risque-là pour nous aujourd'hui est plus important que le risque terroriste. Voilà, le risque terroriste il est géré au niveau du gouvernement. Pour éviter que les gens rentrent au Canada avec des explosifs. Encore heureux, je pense qu'on peut pas acheter des explosifs. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas comment acheter des explosifs dans un magasin à Calgary ou à Edmonton parce que c'est interdit. Et donc après, voilà, c'est lié plus à une politique antiterroriste du gouvernement que de notre côté, quoi. Voilà. Sinon, il y aurait des accidents ou des attentats partout, quoi. Heureusement, le Canada aujourd'hui est plutôt épargné de tout ça, pourvu que ça dure.
Merci beaucoup, Sébastien Gendron, directeur général et cofondateur de Transpod.
Je vous en prie. Merci beaucoup.